RJTU. RF.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupio.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, sujet éducation, comme chaque vendredi. Quelle place pour l'art à l'école ?
C'est les premières notes que les gens vont entendre de votre orchestre. Donc si c'est tout, ça va faire bizarre comme entrée en matière.
Quand la musique s'invite dans les salles de classe, ou bien le dessin, la sculpture, l'éducation artistique est souvent dévalorisée, jugée inutile par certains. Enseignons d'abord aux élèves la lecture et l'orthographe et on verra pour le reste plus tard, voilà en somme le message. En France, l'éducation artistique et culturelle est élevée au rang de priorité par le gouvernement actuel, mais qu'en est-il réellement? Et à quoi bon enseigner les arts, sous quelle forme d'ailleurs? Doper la créativité, cultiver la sensibilité et l'ouverture aux autres? Quel rôle les matières artistiques peuvent-elles jouer dans l'apprentissage des élèves, et ce, dès le plus jeune âge? Avec nous pour en parler, Romain Echen, directeur et coordinateur de La Source Paris. Bonjour.
Bonjour.
La Source, c'est une association qui veut encourager l'expression artistique d'enfants de milieux défavorisés grâce à la rencontre avec des artistes et des médiateurs sociaux. Bonjour Pascal Collin.
Bonjour.
Vous êtes acteur, également membre du groupe Pour l'éducation par l'art, et vous avez publié L'urgence de l'art à l'école, un plan artistique pour l'éducation nationale, point d'interrogation. Et bonjour Emmanuel Etis.
Bonjour.
Vous présidez depuis 2013 le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle au nom des deux ministres. Vous êtes également recteur de l'Académie de Nice et vous êtes avec nous depuis des studios de France Bleu à Avignon, que l'on remercie au passage. Alors nous serons en ligne également avec Barthélémy Togo, artiste peintre camerounais qui a fondé l'espace artistique Banjoun Station et qui nous racontera comment l'art est entré dans sa vie. Nous joindrons également Xavier Buff, professeur de mathématiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse et membre de l'association Les maths en scène, ou comment apprendre à jongler avec les chiffres grâce au théâtre. Et vous, les voisins, les voisines, à l'école, avez-vous suivi des cours d'art plastique ou pratiqué les arts tout simplement pendant votre enfance? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Et puis si vous êtes enseignant, quelle place faites-vous dans vos cours à l'enseignement des arts? Vous nous appelez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. On vous attend aussi sur WhatsApp avec le même numéro, je leur donne 33 1 84 22 71. 71 et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Et vous nous écrivez déjà sur Facebook, les voisins. Herman est à Yaoundé, je le cite. On voit souvent l'art plastique comme un domaine réservé aux personnes qui sont nulles à l'école, ou ratées en quelque sorte. Corneille nous écrit depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je garde un bon souvenir des cours d'art à l'école. Je comprenais beaucoup plus les dessins que les mathématiques. Grâce au dessin, j'ai mieux compris l'histoire, la tradition africaine, l'archéologie et la civilisation égyptienne. Rien que ça. Et puis Afi à Kinshasa, aujourd'hui, je suis architecte et j'ai fait les beaux-arts. Cela a éveillé en moi l'esprit critique, la créativité, la sensibilité, la liberté artistique. Et puis Paco nous a laissé un message sur WhatsApp depuis Dakar.
Bonjour, 7 milliards de voisins. Apprendre d'une manière générale peut procurer un bien fou, quelle que soit la matière. Pour ma part, j'ai appris l'éducation artistique et j'avais beaucoup aimé. Je continue de l'aimer et je continue de l'apprendre aussi. Parce que voilà, je veux être créatif, je veux être différent, entre guillemets, être quelqu'un qui peut faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et je pense qu'il n'y a que l'éducation artistique qui peut nous le permettre. Merci encore à vous.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Mais tout de suite, reportage. L'Orchestre à l'école, c'est le nom d'une association qui depuis 10 ans propose à des classes de former des orchestres, cela en partenariat avec les conservatoires de musique de leur ville. Chaque année en France, le dispositif touche 33 000 enfants avec 1230 orchestres à travers tout le pays. Et certaines classes vont même se produire en concert dans 2 semaines à peine à l'Olympia, mythique scène parisienne. Notre reporter Alice Milo s'est immiscée en pleine répétition, l'une des dernières, avec les élèves du collège Henri Barbus à Bagneux, en région parisienne.
Il y a toujours les 4 premières mesures qui ne me vont pas. Il faut vraiment que les 4 premières mesures, trombone et tuba, il n'y a que vous, ça soit vraiment très très bien. On y va ? 1, 2, 1, et...
Thank you.
Je suis Marianne Blaillot, déléguée générale de l'association Orchestral École. Au départ, c'était les fabricants d'instruments de musique, la chambre syndicale, la facture instrumentale, qui a lancé ce dispositif pour augmenter la pratique instrumentale en France. Et ils se sont dit, où est-ce qu'on trouve tous les enfants ? C'est dans l'école. Et comme on était à moins de 2% d'enfants scolarisés qui pratiquaient un instrument de musique, il y avait une marge de manœuvre assez impressionnante.
2%, donc c'était en quelle année ?
C'était en 99. Mais oui, c'est très faible, en fait.
Et comment vous expliquez un chiffre pareil ?
Déjà, il y a un frein culturel. C'est-à-dire que si on n'est pas issu d'une famille qui fait un instrument de musique, on n'a pas l'idée d'aller pousser la porte du conservatoire. Justement, c'est parce que la pratique instrumentale était complètement absente de l'école, donc peu connue. Et il y a un autre frein, c'est financier. Quand vous devez inscrire votre enfant en conservatoire, que vous devez payer un instrument de musique, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc le principe a été de faire des classes orchestres dans les écoles en partenariat avec les conservatoires.
Même endroit, vous voyez où on est ? Attention, tuba. Roulement, je veux l'entendre, roulement, de timbales. Vous ne pourrez pas le jouer 4 fois de suite comme on vient de le faire là. Ça sera une fois. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est dommage. Donc vous vous concentrez tout de suite pour le jouer la première fois comme vous l'avez joué là, la 4e fois. Allez, on dit que c'est la première.
Moi, je choisis saxophone alto.
C'est toi qui as choisi le saxophone ?
Oui, parce que quand j'étais petite, je regardais les Simpsons et Lisa jouait et moi, j'aimais le son.
Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as joué dedans ?
En fait, j'en avais jamais touché. Et quand je l'ai touché, j'étais trop contente. Et, je sais pas comment expliquer. C'était comme un rêve.
C'est la famille musicale ici.
Qu'est-ce que tu veux dire par famille musicale ?
On est tous ensemble, on se tient tous. On met personne à l'écart.
Et est-ce que vous pensez imaginer un jour vous jouer dans un orchestre ?
Non. C'est quand même de l'argent pour payer des instruments. Et après, il faut avoir les moyens.
Parce que toi, tu joues quoi comme instrument ?
Tuba.
C'est un instrument qui coûte cher ?
2000 euros quand même.
Des enfants, ils disent ouais, c'est nul, je sais pas quoi. Genre, t'es une fille quand tu fais de la musique et tout ça. Il y a des gens qui disent ça, mais.
T'es une fille, tu chantes.
Quand on voit les instruments en face, là, c'est ma ringard.
Vous allez jouer à l'Olympia dans quelques semaines. C'est un peu la pression là.
La grosse pression.
Non, mais en fait, déjà, quand on joue dans l'auditorium et qu'on a un concert, il y a 100 personnes, on va dire. Déjà, on a un peu le trac. Alors, l'Olympia, il y a 1500, 2000, ça va être autre chose.
En fait, c'est plus devant les parents, devant papa, maman, c'est devant 2500 personnes et des gens importants quand même. Donc, ça ajoute une pression un peu.
Est-ce que vous avez le sentiment que le fait de participer à cet orchestre, ça vous aide pour l'école ?
Faut savoir compter pour jouer de la musique.
Si tu sais pas faire ça ?
Faut savoir compter les temps et les mesures.
Si tu peux compter, il y a une souci.
Voilà. Et vous avez vu la concentration que ça vous demande ? C'est cette concentration-là qu'il faut avoir pendant tout le morceau. Ouais ? Timbale, xylo, piano, même endroit. 1, 2, 3, 4.
On s'est rendu compte que finalement, au-delà de former des musiciens, il y a quelque chose qui se passait et que ça transformait les enfants. Dans un orchestre, tout le monde doit réussir. On collabore, on s'entraide, on s'autodiscipline parce qu'on ne peut pas se permettre qu'il y en ait un qui joue plus vite que les autres pour arriver le premier. Ça n'a pas de sens. Et ça amène une vision complètement différente de ce qui a lieu déjà habituellement à l'école.
Parce qu'à l'école, on est plus dans un rapport de compétition, vous pensez ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand un élève travaille pour ses notes, il ne va pas travailler pour les notes du voisin. D'ailleurs, dans l'orchestre, c'est la seule matière où on a vraiment le droit de copier sur son voisin. Et on a le résultat tout de suite. Quand vous produisez la musique et que vous la produisez ensemble, vous avez le résultat immédiat et ça apporte le plaisir. Et donc le plaisir amène du travail supplémentaire et qui redonne encore plus de plaisir. Ce plaisir, il est partagé parce que très vite, les enfants vont jouer en concert devant leurs parents, devant les copains, sur une scène. Et donc ça crée un cercle vertueux.
De fierté, de confiance en soi.
Tout à fait. Et en fait, les professeurs qui viennent du conservatoire viennent dans une posture de valorisation des enfants. On n'est pas là pour les casser. Il n'y aura pas une sanction de note non plus sur cette pratique. On vient là pour réussir, pour prendre du plaisir et pour le partager. Les enfants, effectivement, même ceux qui ne réussissent pas en classe, réussissent au travers de ce projet, trouvent un espace de réussite et prennent confiance en eux. Et comme ça se passe dans l'école et que les enseignants participent, ce qui se passe dans l'orchestre jaillit dans toute la vie de la classe. Et donc, il y a déjà une ambiance bien meilleure dans la classe, avec des enfants plus sereins, plus concentrés, qui ont gagné en autonomie. Et donc, les conditions sont bien meilleures pour la réussite dans tous les autres apprentissages.
l'orchestre à l'école. Reportage d'Addis Milo. Que vous inspire cette initiative, Pascal Collin?
Beaucoup de choses, parce que j'ai envie de rebondir tout de suite sur le reportage. Il contient pratiquement tous les termes qui renvoient à la nécessité de l'éducation artistique et culturelle. D'abord, la notion de projet solidaire, dans lequel chaque individu est tenu donc à une responsabilité particulière et qui est extrêmement importante pour la réussite de l'ensemble, quoi. Il y a la notion de plaisir aussi qui est intervenue. Il y a beaucoup de choses. La notion de collectif, oui, précisément le rapport qu'il y a entre la réussite individuelle et puis la réussite du projet collectif. Et la notion de projet, elle est là. C'est-à-dire que l'éducation artistique et culturelle ne peut se définir que par la manière dont grâce à des partenariats qui s'édifient entre l'enseignant, l'artiste, éventuellement l'éducateur, donc pour ce qui concerne la source, par exemple, comment, grâce à ce partenariat, on va pouvoir mettre en œuvre véritablement une création. Une création où chacun des élèves, chacun des jeunes est partie prenante, mais complètement.
Alors aujourd'hui, l'art est souvent décrit comme le parent pauvre de l'école. Oui. Comment l'expliquer?
C'est curieux, mais finalement, ce qu'on entend là, ce qu'on a entendu dans le reportage, m'amène à dire qu'à chaque fois, c'est non seulement, on retrouve un peu la même expérience à chaque fois, et à chaque fois elle est probante. À chaque fois, non seulement cela crée de la motivation chez l'élève, on entendait aussi, j'ai également écouté ce que vous disiez, vous rapportiez des messages Facebook, des propos d'auditeurs, qui disaient à quel point quand ma sensibilité a été mobilisée pour connaître des choses, alors à ce moment-là, c'est tout un monde qui s'est ouvert, tout un monde de connaissances, le sensible menant à l'intelligible, etc. Et en l'occurrence, je crois, il me semble en tout cas, que quand on constate les bienfaits de l'éducation artistique et culturelle, non seulement sur le plan de l'individu, de la création d'espace où les savoirs se muent tout d'un coup en connaissance, où l'élève est amené à pouvoir hiérarchiser, choisir, être autonome, etc., prendre du plaisir. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a... Alors que les expériences sont multiples, elles sont depuis des décennies, elles sont nombreuses, elles sont à chaque fois couronnées, la plupart du temps, elles sont couronnées de succès individuel, et pour, la professeure l'a rappelé également, pour la collectivité, et au-delà, pour la réputation du collège parfois,
plutôt dévalorisée.
Alors, je crois que c'est une question idéologique en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit à chaque fois qu'on est devant une difficulté, l'éducation connaît des difficultés, elle laisse quand même beaucoup d'élèves sur le bord de la route, et donc on a l'impression qu'il faut revenir aux fondamentaux, qu'on a oublié parfois une certaine autorité, qu'on a fait preuve de trop de laxisme, etc. Il faut absolument revenir à lire, écrire et compter, éventuellement en tapant davantage sur les doigts. Alors qu'on se rend compte que le dire, le faire, le sentir, dont il est question dans ce reportage et dans toutes les expériences que j'ai pu connaître en qu'elles concernent le théâtre, les arts plastiques, etc., ce n'est pas quelque chose en plus, ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est ce qui permettra précisément de mieux lire, écrire et compter. On l'a entendu, c'était également dans le reportage, par exemple, oui, j'ai appris à mieux calculer lorsque j'ai compris qu'une partition, c'était aussi du calcul. Vous voyez, et donc quand on mène un projet, par exemple théâtral, puisque c'est ma partie, et je termine là, évidemment, non seulement l'acteur acquiert une certaine autonomie sous la direction, et on s'aperçoit d'ailleurs que lorsqu'on mène un projet avec les élèves, c'est un projet de création à chaque fois, et l'objectif, il n'est pas thérapeutique ou social, il est d'abord artistique. C'est quand ils ont l'impression de participer à une véritable création, quand ils ont l'impression d'apporter quelque chose d'eux-mêmes, véritablement, alors que c'est efficace. Mais quand je dis que l'obstacle, il est épistémologique ou il est idéologique, c'est qu'on se dit, c'est très bien qu'on fasse appel à la sensibilité de l'élève, c'est très bien qu'il y ait l'éducation artistique à l'école. On a l'air d'être tous d'accord, mais en réalité, on ne se rend pas compte à quel point il faut la mettre au cœur du système, en relation avec les autres objectifs.
Emmanuel Etis, alors justement, que prévoit le gouvernement français actuel sur le sujet? Un plan choral, notamment, a été présenté par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture en décembre dernier.
Absolument, mais peut-être avant d'arriver sur le plan choral, j'aimerais vraiment rebondir sur les deux choses, à la fois le reportage que j'ai trouvé tout à fait remarquable, comme l'a dit Pascal Collin, il y a tout dans ce reportage, il y a tout ce qu'on peut attendre de l'éducation artistique et culturelle, et tout ce qu'a dit Pascal Collin, voilà, c'est la couche supplémentaire qui permet de vraiment comprendre comment fonctionne et ce que doit être l'éducation artistique et culturelle, qui est vraiment une éducation par l'art, qui est une éducation aussi à l'art et aux connaissances. Petit chiffre quand même dont je me suis aperçu il y a très peu de temps, par rapport à ce qui est dit, c'est surtout éviter d'opposer l'acquisition de nos savoirs et la manière dont on doit transmettre les choses. Et pour cause, ce dont on s'aperçoit quand on fait des petits croisements statistiques, c'est que tous les élèves qui réussissent ont souvent parallèlement ou avec une éducation artistique et culturelle. Et pour vraiment se calmer par rapport à ce que devraient être d'abord les fondamentaux ou autres, je vais vous dire quelque chose, c'est que tous ceux qui échouent à l'école en général, tous ceux qui restent au bord de la route, qui n'arrivent pas à faire leur formation, ils n'ont pas non plus d'éducation artistique et culturelle. Ce qui montre vraiment, déjà dans les chiffres très concrets, quand on se donne la peine de les regarder, de les croiser, la nécessité de considérer tous ces savoirs en commun. Nous sommes tous là. Il a dit fort bien, Pascal Collin, on est à la fois intelligibilité et sensibilité, sensibilité et intelligibilité. Et je pense que réellement, c'est pourquoi le président de la République, mais je ne parle pas en son nom, et je pense qu'il a pris conscience parce que d'abord il est dans un cadre un petit peu intergénérationnel, il est assez singulier ce président, d'imaginer que aux têtes de son programme culturel, de politique culturelle, il affiche 100% d'éducation artistique et culturelle. D'habitude, on fait, oui, et c'est bien, comme le dit Pascal Collin, s'il y a de l'éducation artistique et culturelle, c'est là, c'est non. Je souhaite que 100% d'éducation artistique et culturelle constitue le premier point d'un programme politique. Donc évidemment, les ministres Jean-Michel Blanquer et Françoise Nyssen, qui se sentent immédiatement concernés par cela, sont en train, de reprendre la question de ce que nous avions mis en place avec le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, la charte de l'éducation. Il a fallu quand même 3 ans pour écrire cette charte, c'est-à-dire se mettre d'accord sur les termes de ce que nous devions faire. C'est pas grand-chose en
donc
réalité.
Donc il a été proposé en 2016, oui. Hein, cette charte, avec 10 principes.
Absolument.
Sur l'éducation artistique et culturelle.
Et nous souhaitions avoir des mots simples, compréhensibles par tous et par tous les acteurs, et partager cela, puisqu'il y a évidemment des gens très divers autour de la table, qu'il s'agisse de Romain Renucci ou autres. Il fallait vraiment qu'on soit tous d'accord sur les termes de ce que nous souhaitons transmettre. C'est pas mal déjà que des représentants des collectivités, de droite, de gauche, bref, se réunissent autour d'une table pour se dire, au fond, oui, c'est une priorité pour nous, mais voilà ce que nous souhaitons transmettre, et voilà aussi comment ça peut être une référence pour qu'on ne soit pas hésitant et qu'on se dise, allons-y, on est vraiment au cœur de l'école, on est aussi au cœur de tout ce qui correspond les moments d'apprentissage, puisque c'est tous les moments de la vie, et on a beaucoup insisté sur quelque chose dans cette charte, le fait que ça puisse concerner aussi les amis et la famille. Et c'est ce que montrait aussi le reportage, parce que l'éducation artistique et culturelle, c'est une éducation qui doit forcément embarquer tout le monde. Vous savez, on a quelquefois dans des quartiers un peu difficile, quartier dont on dit qu'un peu difficile, c'est quelquefois que les problématiques d'éducation n'ont pas été perçues jusqu'au bout, et quelquefois la famille ne peut pas forcément aider l'enfant sur les maths, sur le français, sur autre chose. L'éducation artistique et culturelle, la famille doit être concernée obligatoirement, quel que soit ce qu'elle elle-même a appris, et c'est ça le grand pari qui est difficile. Et c'est ça qu'il faut dépasser, parce que dès l'instant où on passe ça, on dépassera à la fois les clivages idéologiques qui existent, et puis aussi être inspiré. Moi, dans votre reportage, j'ai entendu cette petite fille à qui on demande pourquoi tu as voulu faire du saxophone, parce que j'ai vu les Simpsons à la télé et que Lisa Simpson, elle fait du saxophone. Eh bien, oui, c'est important. Quels sont nos modèles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on diffuse? Et qu'est-ce que nous diffusons en France comme modèle d'artiste qui porterait des inspirations qui nous permettent de dire aux gamins, ben voilà, fais comme, et ben le fait comme, il est un petit peu compliqué néanmoins. Vous savez, je rappelle souvent sur la musique qu'en 1964, quand la France remporte la Palme d'Or du Festival de Cannes, on la remporte avec les parapluies de Cherbourg, c'est-à-dire un truc que personne n'a jamais vu nulle part, un film entièrement chanté, même pour dire, je vais faire réparer ma voiture au garage. Eh bien, la presse étrangère de l'époque, en 64, dit, oh, la France doit être un pays drôlement chantant. Hein. Eh ben, ils arrivent en France et puis ils sont un peu déçus à la clé, et c'est pourquoi on a vraiment des gens qui peuvent nous inspirer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut se dire qu'il y a des fondamentaux qui doivent nous différencier. Je pense que le plan choral qui est mis en œuvre par Jean-Michel Blanquer, qui veut dire qu'on souhaite que dans chaque école de France en 2019 et dans chaque collège de France, il puisse y avoir une chorale, c'est aussi se regrouper, c'est aussi l'émancipation par le corps, c'est aussi déjà commencer par quelque chose de très simple, mais qui peut faire que notre école va se caractériser par notre chorale. Vous savez, les concours de chorale, interchorale, c'est quelque chose qui est assez formidable. D'abord parce que oui, c'est un collectif, et cette insistance sur le collectif où on se présente ensemble au milieu des autres, mais aux yeux des autres.
Et c'est ce qu'on a pu effectivement entendre dans le reportage. Pascal Collin, vous voulez
réagir. On est tout à fait d'accord sur les principes avec Emmanuel Etis, évidemment, et la charte, elle est parfaite.
La question, c'est plutôt l'application.
C'est l'application de la charte, évidemment, qui constitue une question fondamentale. Et puis, donc, sur le plan de. Sur ce que vous avez dit, Emmanuel Etis, il y a un ou deux points qui sont. Sur lesquels j'aimerais revenir. Il y a le fait fait, par exemple, que vous disiez il faut faire comme tel ou tel. En réalité, je ne sais pas ce que vous vouliez dire exactement, mais il est évident que pour des élèves, l'intérêt n'est pas d'imiter le majeur, parce qu'auquel cas, on arrivera à des résultats qui seront toujours un peu décevants, mais véritablement de prendre l'humanité même des élèves dans tous les arts pour qu'ils puissent s'exprimer en eux-mêmes et qu'ils puissent être eux-mêmes au travers de l'activité artistique. C'est ce que je voulais préciser. Mm-hmm. Et quant voilà, je suppose que c'est ce que vous vouliez dire, sans doute, d'ailleurs.
Non. Oui, je voulais dire cela. Dis simplement qu'en France, et c'est pour ça que j'insiste sur ce point, c'est pas évidemment de l'imitation, même si une grande part de ce que nous sommes, il faut être extrêmement parce modeste, que... relève de l'imitation, d'abord quand on écrit des textes,
oui,
qu'on fait...
Oui, l'art lui-même est imitation, mais ça ne rend pas...
Mais ce que je veux dire, c'est que la France est peu préoccupée...
philosophique très complexe.
La France est très peu préoccupée de sa représentation de l'homme et de la figure, de l'homme cultivé ou de la femme cultivée. Vous savez, quand vous regardez les séries françaises, les films français du cinéma qui sont subventionnés par le CNC, je vous invite à regarder avec curiosité ce que sont les décors de ces films et de ces séries. Vous ne verrez jamais une bibliothèque, vous ne verrez jamais un objet d'art, vous verrez rarement...
On s'éloigne un petit peu de l'école.
Je comprends très bien ce que vous dites. Je comprends très bien ce que vous dites, mais je suis moins dans les questions de représentation de la France que de la politique culturelle, qui est de la politique éducative qui donc promeut l'éducation artistique et culturelle. Et sur ce plan-là, évidemment, l'application de la charte, on est très loin de l'application de tous les principes. Alors je voudrais rappeler, en 30 secondes d'abord, que, évidemment, la pratique est extrêmement importante. La loi de refondation de l'école de Vincent Peillon en 2013 cite les trois piliers de l'éducation artistique, donc qui sont, évidemment, la rencontre avec les œuvres et avec les artistes, l'histoire de l'art, mais également la capacité analytique. Deuxième point, qui est le plus théorique, le deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est la pratique. Mais le plus important des trois, celui qui est le plus distinctif et pour l'éducation artistique et culturelle, et donc on va à un moment donner la parole à Romain,
évidemment,
c'est la pratique elle-même. C'est la pratique elle-même parce qu'elle met en jeu le fait que précisément chaque élève est unique et que chaque élève est susceptible de, doit être non seulement touché, parce que, évidemment, vous faites actuellement, il y a un gros effort budgétaire pour l'éducation artistique et culturelle. Mais il est encore insuffisant pour la généralisation. Les 100% dont parle Emmanuel Macron, c'est formidable, ça veut dire la généralisation. Mais cette généralisation n'est possible que dans la mesure où l'argent qui est apporté, on parle d'une dizaine de millions actuellement, et Emmanuel Etis va sûrement le confirmer, une dizaine de millions ne sera utile que dans la mesure où ils pourront actionner des leviers sur le plan local, comme on l'a entendu pour l'orchestre, sur le plan des territoires.
On va parler de ce que vous faites, Romain Hichen, avec votre association La Source, créée en 91. En France, qui a actuellement 8 sites dans 8 départements différents.
Tout à fait.
Alors, les enfants sont accueillis pendant les vacances scolaires ou pendant des ateliers qui peuvent durer plusieurs mois. Et vous pouvez aussi, avec l'association, vous inviter dans des classes, en collaboration bien sûr avec l'Éducation nationale. En quoi consiste votre action, concrètement ?
Alors, comme vous l'avez bien dit, il y a deux types d'actions assez distinctes, mais qui finalement se rejoignent parce qu'elles poursuivent un peu le même but. Il y a les actions dites sociales, qui sont vraiment à destination d'un public un peu plus cible, qui est suivi par ce qu'on appelle les travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales, etc.
Donc des enfants plutôt de milieux défavorisés.
Exactement. Et ensuite, on a un pilier qui est beaucoup plus axé sur l'éducation, parce qu'on nous, en interne, on parle plutôt de prévention, parce que là, effectivement, on a des actions qui sont liées à l'éducation nationale, et donc on intervient le temps d'un projet dans une classe, et entre guillemets, on bouscule les prérequis. Par le type d'art qu'on amène.
Quel type alors d'art par exemple ?
Alors voilà, c'est vraiment multi-pratique. On peut faire aussi bien de la forge que du vitrail, que de la sculpture monumentale, que de la vidéo, que du théâtre, de la danse. Voilà, ça dépend vraiment des projets artistiques qui sont proposés par les artistes intervenants.
Donc il y a toujours des artistes qui interviennent.
Exactement.
Dans ces classes ou dans ces groupes d'élèves.
Exactement. La grande force de l'asso, en fait, c'est de vraiment proposer un binôme qui est un peu atypique, qui est celui à la fois de l'artiste intervenant, qui vient, lui, comme artiste, vraiment avec son univers propre, et c'est ça qui nous intéresse, et rien d'autre. Ce qu'on appelle un médiateur qui est affilié à l'association ou dans le cas d'intervention sociale l'éducateur référent et qui lui va servir vraiment de lien entre la démarche artistique et le groupe de jeunes avec qui on va travailler.
Qui connaît les enfants et qui sait comment travailler avec
exactement.
Eux.
Exactement. Et qui va pouvoir décharger aussi l'artiste de... toute la dimension pédagogique, même si on demande à l'artiste aussi d'avoir un rôle pédagogique, mais c'est pas notre préoccupation première. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet à des artistes qui ont un univers très riche et très intéressant de pouvoir le partager en étant un peu aidé voilà, sur ce point-là.
Les voisins, les voisines, on vous attend au 33 1 84 22 71 71 et on va accueillir un voisin tout de suite au standard.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun. Vous enseignez les arts plastiques. On vous écoute, Gérard.
Ah oui, oui, bon, je suis à Yaoundé. J'enseigne les arts plastiques dans un lycée de la ville de Yaoundé, le lycée de Tsinga pour le nommer, pour être plus précis.
Mm-hmm.
Ok, donc oui, oui, je tiens les classes de 6e, je tiens les classes de seconde et puis je tiens également les classes de, une classe de terminale.
Et alors, qu'est-ce que vous proposez aux élèves pendant vos cours d'arts plastiques?
Alors, généralement, durant nos cours d'art plastique, il y a des cours pratiques, il y a des projets de groupe. Mais par-dessus tout ça, il y a plein d'autres cours sur la culture, notamment la culture du Cameroun, éventuellement les aspects de la culture mondiale aussi. Et comment ça se passe? Très souvent, quand nous sommes en train d'achever les cours, généralement, le cours selon c'est 1h31, 1h30. Parce que nous sommes encore un peu en retrait avec les arts plastiques ici au Cameroun. C'est une discipline qui n'est pas encore très acceptée. Et d'ailleurs, les enfants, ils nous prêtent souvent de tous les noms quelque part, bien que c'est le cours qui draine beaucoup d'élèves d'ailleurs. Il y a très peu d'absents au cours d'art plastique. Donc, généralement, à 15 minutes de la fin du cours, moi, personnellement, je permets souvent aux élèves de soumettre leurs problèmes dans les autres disciplines pour qu'on puisse les résoudre de façon artistique, comme on dit souvent, pour leur montrer que l'art a un rapport avec toutes les autres disciplines qui puissent exister.
Donc il vous arrive par exemple de parler de philosophie, de maths, de physique, c'est ça?
Oui, oui, il nous arrive très souvent de parler de philosophie avec les terminales, et qui très souvent... me prennent beaucoup de temps durant les pauses, puisqu'ils estiment que 15 minutes, c'est petit pour leur parler de philosophie. Puisqu'on fait un lien entre la philosophie, on fait un lien avec la philosophie de l'art et la philosophie classique, si je peux me permettre de le dire ainsi. Ils estiment que nous, les artistes, nous qui sommes enseignants d'art plastique, nous abordons mieux la chose philosophique que les enseignants de philosophie, parfois, qui sont assez rapides et qui ne leur apportent pas vraiment pour l'explication.
Et en fait, pour vous, Gérard, les arts sont en fait un tremplin vers d'autres domaines, vers d'autres disciplines?
Bien sûr. Je crois que je me dis parfois que les arts plastiques peuvent aider beaucoup d'enfants à comprendre d'autres disciplines le plus facilement possible.
Même des disciplines très pointues. Merci beaucoup Gérard pour ce témoignage. Nous sommes également en ligne avec Paul qui est à Abidjan. Bonjour Paul.
Bonjour.
On vous écoute.
Je suis professeur des arts plastiques au lycée municipal Simone-Yves-Gbagbo, où j'enseigne de la 6e à la 3e avec les plus jeunes. Mm-hmm. Bon, les arts plastiques, les enfants les pratiquaient dans leur quotidien à travers les jeux. Donc, ce n'est pas une discipline nouvelle pour eux. Et nous, en Côte d'Ivoire, ici, on applique l'APC, qui est l'approche par compétence. Et avec cette approche, nous commençons le cours par une situation d'apprentissage qui va énumérer un problème par lequel nous devons résoudre à travers un dessin vers la fin. Mmh. Et à ce niveau, nous avons des cours comme sensibilisation au civisme fiscal. Et l'enfant va savoir déjà qu'avec l'argent des contribuables, c'est cet argent qui va permettre de construire des écoles où il fréquente et payer le salaire des fonctionnaires. Et à la fin, il va élaborer un message de sensibilisation en faveur du paiement des impôts.
Et je crois que vous sensibilisez aussi à la question du gaspillage de l'eau, donc pendant ces cours d'art plastique?
Bien sûr, on sensibilise sur les questions de gaspillage d'eau, et parce que nous savons que l'eau est une source vraiment précieuse, qui est tarissable, et avec les techniques de protection d'eau, nous faisons des images séquentielles pour montrer comment il faut protéger l'eau, comment il ne faut pas gaspiller l'eau. Et encore, nous faisons des cours sur les modes de transmission du VIH. Les modes de transmission du VIH, il faut énumérer ces modes-là à travers des dessins. On les fait sur des supports graphiques.
Ah, vous le faites grâce à des dessins. Il y a quand même de l'art plastique dans vos cours.
Oui, dès là,
c'est quand même la base. Merci, merci oui. beaucoup Paul pour ce témoignage, Pascal Collin.
Oui, merci
réagir.
Paul, et je voudrais réagir. Je me dis que la finalité de l'art, c'est l'art lui-même. Et c'est au cours du processus artistique que précisément on a besoin de toutes les dimensions autres que celles de l'art pour parvenir au résultat. Et par exemple, la dimension philosophique, pourquoi pas. Mais quant à l'Afrique, parce que moi j'ai des relations très très importantes, particulières en ce moment avec le Mali, avec un ami qui s'appelle Lamine Diarra, qui a créé une structure qui s'appelle Les Praticables. Donc on a réalisé quelque chose d'important récemment. Et je voulais revenir sur le rapport entre l'art et puis les questions fondamentales, l'eau, le VIH, etc., qui ont été abordées par Paul. En réalité, actuellement en Afrique, bien souvent, on demande, les ONG, les bailleurs, ceux qui ont des sous, quoi, finalement, demandent aux artistes de faire, pour le théâtre, pour ma partie, du théâtre utilitaire. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas du tout que les populations africaines, en tant qu'artistes ou en tant que spectateurs, puissent proposer quelque chose d'un renouvellement artistique ou esthétique. On suppose que le théâtre doit être uniquement un vecteur donc d'autres, avec des objectifs
de
autres
messages,
que ceux,
en fait.
Voilà, de messages, etc. On sait bien que l'art qui ne vaut que par son message est un art assez médiocre en règle générale. En fait, avec les praticables, Lamine Diarra a initié quelque chose dans lequel moi je me suis beaucoup investi. Il a fait une structure de formation. Il faut savoir que le théâtre qui était très important au Mali il y a quelques décennies et qui a été politiquement très important parce que les artistes de théâtre ont participé à la révolution contre Moussa Traoré à la fin du XXe siècle, eh bien que ce théâtre, il était en déliquescence. Il était, voilà. Et il a créé une structure de formation avec des jeunes auteurs, des jeunes autrices d'ailleurs. C'était beaucoup plus d'autrices que d'auteurs. Des jeunes metteurs en scène. Il a créé des binômes. Il a eu des tuteurs. Bon, j'en ai fait partie. Il y a Dieudonné Nyanguna, que peut-être vous connaissez, Aristide Tarnadga, qui sont des artistes africains importants. Donc, congolais, burkinabé, etc., qui sont venus. Et à la fin, on a réalisé un festival en octobre, à la fin de tout ce processus, à Bamako, où le quartier a été entièrement transformé et où on a monté des gradins dans les cours, le quartier a été illuminé la nuit, décoré, les gens passaient, parlaient du spectacle, etc. Donc la formation ne concernait pas seulement les jeunes, évidemment, metteurs en scène, comédiens, etc., mais autrices, mais elle concernait également, mais elle concernait évidemment toute la population. Toute la population a fait sienne cette entreprise et les gens du quartier ont créer aussi le festival. Il y a quand même eu 5000 personnes en 4 jours. C'est extraordinaire.
En tout cas, l'art
peut refonder. Évidemment, comme l'art se fonde sur l'observation critique de soi-même par la communauté, surtout le théâtre, qui est l'art éminemment politique par excellence, eh bien, en l'occurrence, c'est toute la communauté qui était intéressé et investi dans cet acte artistique-là.
Romain Hessen.
Oui, je voudrais juste compléter en disant simplement que l'art, c'est la vie, en fait. On a tendance à dire que il y aurait une déconnexion entre notre intellectuel et notre sensibilité. Or, c'est totalement l'inverse. L'art se crée en faisant, en expérimentant la matière, etc. Et c'est ce qui fait que la sensibilité des enfants, elle est nourrie. Et c'est ce qui fait que leur rapport au monde est retrouvé.
Et ça passe par la pratique, hein, bien sûr. Une visite de musée ne suffit pas.
Exactement. Et c'est pour ça que institutionnaliser l'art, c'est une bonne chose parce que ça permet d'arriver à certaines choses. Or, le pendant, on va dire, négatif, c'est aussi de vouloir l'orienter vers quelque chose, comme disait Pascal Collin. L'art, pour aller vers un message particulier, du coup, on enlève toute la richesse de l'art dans ce qu'il a de plus beau et de plus fondamental dès l'origine.
Exactement. Ça peut suffire.
Pas forcément l'art pour l'art, mais en l'occurrence, pas ce néocolonialisme qui consiste à penser que les artistes là-bas n'ont qu'à être les vecteurs de messages.
Bien sûr. Les voisins, les voisines, restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Tout de suite, Mardi se fait gras sur RFI, c'est signé Pierre Quenders.
Sur ma flotte, je suis la humaine. À Mardi Gras, à make it make. Je suis mon prepaid, mon cellulaire de pépère. C'est ça que j'ai dit à ma mère. Moi, je suis la Mardi Gras trip. Ça prend un sip. À Paris, célébrer la journée avant le carême. Il faut que tu hausses le barème. Dépression, come on. Il faut que tu passes le baton.
Les Mardi Gras sont sur un grand voyage. Tout la tête du mouillé. Faut qu'on l'en asseye. Sortir à soir, ça sort du couvent. Whirlpool, comment ça flotte? La crème au top, la top down. Boy around, ça sort des photos. Et tout le monde
se presse, on va laisser faire la messe. Le cul de secours après les filles, ben on va laisser faire celui que bien te bénisse.
Vous écoutez 7 milliards de voisins et vous avez bien raison. Pour un sujet éducation comme chaque vendredi, l'art peine à s'imposer comme une priorité, une nécessité à l'école. Et pourtant, les bienfaits de l'éducation artistique ne sont plus à prouver. Alors comment faire plus de place aux arts, sous toutes leurs formes, dans les salles de classe et même d'ailleurs hors de l'enceinte des écoles, dans un temps périscolaire? Avec nous pour en parler, Emmanuel Etis, président du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Avec nous depuis les studios France Bleu à Avignon, Pascal Collin, acteur engagé qui publie « L'urgence de l'art à l'école ». Un plan artistique pour l'éducation nationale. Également avec nous Romain Echen, directeur et coordinateur de La Source Paris, une association qui favorise la rencontre d'élèves avec des artistes. Et puis d'autres initiatives entendent mettre l'art au service de l'apprentissage, notamment le théâtre, pour mieux faire comprendre les mathématiques. Écoutez.
Plus le nombre de convives X est grand, plus la quantité de riz 1 sur X est petite. Si le nombre de départs X augmente, le nombre d'arrivées 1 sur x diminue. Si x tend vers plus infini, alors 1 sur x tend vers 0. On dit dans ce cas que lorsque x tend vers plus infini, la limite de 1 sur x est 0.
Bonjour Xavier Buff.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse, également membre de l'association Les Maths en Scène. On vient d'entendre l'extrait d'une vidéo réalisée par votre association avec des lycéens à Quetigny, en Bourgogne. Alors pourquoi lier le théâtre et les mathématiques? Pourquoi mettre les maths en scène?
Alors comme le disaient certains de vos invités tout à l'heure, les mathématiques, en fait, ont des points communs avec les arts. On a tendance à réduire les mathématiques à un langage, par exemple, à une technique, à quelque chose de très technique. Et en fait, les mathématiques sont beaucoup plus riches que ça et ont toute une part de créativité dedans qu'on a envie de développer. Et pour que les jeunes comprennent les maths, s'en emparent et développent cette créativité, utiliser les arts est très fructueux.
Et l'année dernière, vous avez mené un projet qui s'intitulait « De l'infiniment petit à l'infiniment grand ». En quoi cela a consisté?
Alors, on avait contacté 90 classes de l'académie. En fait, toutes les classes de l'académie, il y a 90 classes qui sont inscrites dans le projet. Et chaque classe a eu à créer un panneau, une œuvre artistique autour d'un thème qui pouvait être le millimètre, qui pouvait être l'année-lumière, ou qui pouvait être la milliseconde ou la seconde. Et ces 90 panneaux ont été assemblés après pour faire une exposition. Les élèves sont venus présenter à l'université leur travail en ayant un discours scientifique sur l'œuvre, à la fois un discours artistique et un discours scientifique. Sur l'œuvre qu'ils ont créée, donc c'était des panneaux qui ont été assemblés après pour faire une frise de tous les ordres de grandeur.
Et vous participez cette année à un autre projet qui s'appelle Regard de géomètre, hein, qui se tient dans une vingtaine de classes dans l'Académie de Toulouse. En quoi ça consiste?
Alors cette année, on est parti de différents thèmes autour de formes, autour de transformation, de perspective, de spirale, de sphère, de ballon, de cristaux, de coquillages. Et on a demandé à ces élèves, aux classes, d'imaginer le regard mathématique qu'ils pourraient porter dessus. Et donc chaque classe doit produire, alors on a essayé d'aller plus loin, au lieu de se limiter à une production sur un panneau qui serait affiché dans une exposition, on a demandé aux classes de produire une œuvre artistique qui pourrait être une chorégraphie, qui pourrait être une pièce de théâtre, pour regarder ces différents objets, je rappelle, hein, l'architecture, la musique, ou bien encore l'origami, les pavages, et essayer de voir quel regard mathématique on pourrait porter sur ces objets.
Et on sait que dans les mathématiques, on peut avoir des blocages. Quelles difficultés dans l'apprentissage des maths, l'art, notamment le théâtre, permet-il de contourner, selon vous?
Il y a une expérience qui a été réalisée assez souvent et qui marche à tous les coups, c'est de demander à des élèves de reproduire une figure et de leur présenter la figure en leur disant qu'il s'agit d'un exercice de mathématiques et d'une figure géométrique à reproduire, ou alors de leur demander à un autre groupe d'élèves test de prendre la figure et qu'il s'agit d'un dessin à reproduire. Eh bien, à chaque fois, les élèves à qui on a dit qu'il s'agissait de reproduire un dessin réussissent nettement mieux que les élèves à qui on a dit qu'il s'agissait de reproduire une figure géométrique d'un exercice.
Simplement en changeant le terme, en fait.
En changeant le terme. Et donc, il y a très clairement qui a été identifié par les chercheurs un blocage qui vient rien que de parler de mathématiques. Donc, trouver d'autres approches pour parler des mêmes notions, là aussi, réussi à faire sauter ces blocages.
Changer de regard sur les maths grâce à l'art. Merci Xavier Buff. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques à l'université Paul Sabatier à Toulouse et membre de l'association Les Maths en Scène.
Pascal Collin. C'est génial parce qu'en réalité, c'est l'éducation artistique permet d'engager le corps et le désir dans l'apprentissage. Et c'est en cela qu'elle est aussi très tout à fait nécessaire. Et cela, on l'entend aussi, mais c'est assez ancien, hein, l'expérimentation comme dimension absolument nécessaire de l'éducation, qui est insuffisante en France. Georges Charpak, là, on avait déjà parlé à la fin 96, quand il avait créé l'association La Main à la Pâte. Vous voyez, bon, là. Et mais revenons un petit peu à l'éducation artistique et culturelle, justement, et peut-être aux difficultés qu'elle a pour s'imposer aujourd'hui. Et donc, il y a quelque chose qui est très important, parce que, Romain, tu parlais tout à l'heure des relations entre l'artiste, les partenariats, quoi, entre l'artiste et l'enseignant, ou l'artiste et l'éducateur. Ce qui manque actuellement, beaucoup, là où les moyens ne sont pas à la mesure des intentions affichées, c'est en ce qui concerne la formation des maîtres, la formation des professeurs dans les ESPE en particulier.
Alors justement, Emmanuel Etis, est-ce que vous voulez réagir sur cette question-là de la formation des maîtres aux arts et à l'enseignement des arts ?
Bien sûr, puisque je souscris à cette idée. Vous savez, j'ai fait un petit bilan et un tour de toutes les ESPE qui sont mises en place en ce moment, qui mettent en place en ce moment l'idée de AC, puisque l'éducation artistique et culturelle, pour l'instant, hormis dans l'ESPE de la Réunion, eh bien, nous n'avons zéro heure consacrée. Alors, c'est dans les programmes, mais personne ne les suit, et donc ça pose quand même un problème de fond. Mais c'est pas qu'un problème, sur les ESPE, c'est vraiment qu'on puisse imaginer que dans les écoles supérieures du professorat, eh bien, on soit bien dans une logique de, comme l'a dit très justement Monsieur Collin tout à l'heure, la logique de construction de projets en commun. C'est-à-dire que, évidemment, c'est toujours extrêmement compliqué de se dire, tiens, on va consacrer un vrai moment dans notre temps d'apprentissage au moment où nous sommes stagiaires dans une école supérieure du professorat, pour se dire que l'art concerne à peu près toutes les disciplines, mais concerne aussi, il faut le dire, les disciplines artistiques. L'éducation artistique et culturelle, c'est pas la même chose que l'éducation des professeurs en arts plastiques ou en musique, comme on peut les avoir dans l'éducation nationale. C'est veut dire construire aussi des projets avec des partenaires extérieurs. Faire entrer des artistes à l'école, c'est une autre logique. C'est un autre type d'apprentissage, et c'est vraiment ce sur quoi on essaie vraiment de réfléchir en ce moment pour mettre en place cet apprentissage singulier qui consiste aussi à avoir une école ouverte et pas une école fermée. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important.
Une école ouverte aux artistes. Et justement, on va donner la parole à un artiste, l'art à la conquête de l'école. Vous écoutez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Bonjour Barthélémy Togo.
Bonjour LFI.
Vous êtes artiste peintre camerounais. Vous avez fondé l'espace artistique Banjoun Station, un espace de vie avec une salle de spectacle dans l'ouest du Cameroun. Alors vous êtes à Washington où il est actuellement 6h53 du matin. Merci beaucoup de vous être réveillé pour nous. Alors vous, à quel âge et comment est-ce que vous avez commencé à peindre ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'art ?
Ben, c'est juste ma passion pour des choses très simples. Très jeune, je dessinais et je fabriquais des petites voitures en bambou parce que j'étais fasciné par les grands camions qui passaient dans la ville de Mbalmayo, c'est au centre du Cameroun, et il y avait une exploitation forestière assez présente dans cette ville. J'étais donc fasciné par les camions et du coup, je fabriquais des petites voitures en bambou. Et voilà un petit peu comment commence l'envie de faire de l'art, de faire fabriquer des objets avec mes mains.
Et pour vous, est-ce qu'il faudrait plus de matières artistiques dans les écoles au Cameroun, par exemple ? Plus de place pour l'art ?
Je crois que c'est une erreur que beaucoup d'États africains et de gouvernements n'implique pas cet enseignement dans l'éducation, dans l'enseignement artistique. Et c'est une erreur très grave parce que l'art permet l'ouverture de l'esprit des jeunes enfants. L'art pratiquer très jeune donne envie de non seulement de trouver aussi un métier à partir de ce qu'on a envie de faire, la musique, le théâtre. Et donc il faut imposer dans les écoles et dans les établissements scolaires l'enseignement artistique et la pratique de cela.
Et vous seriez prêt en tant qu'artiste à intervenir dans des établissements ?
Ben, je le fais déjà en France, aussi au Cameroun, même si c'est nous, à Banjoun Station, dans ce centre d'art que j'ai construit à l'ouest du Cameroun, qui allons vers les écoles et demandons à ce qu'on puisse faire venir les enfants à l'intérieur de notre centre d'art pour leur donner cette formation et pallier le manque qui n'existe pas dans les écoles. Et donc, moi, j'aime bien travailler avec des enfants, j'aime bien m'exercer à la peinture, au dessin, et même à la musique avec les jeunes, parce que non seulement ils apprennent un métier, mais aussi ils apprennent dans la joie et en s'amusant.
Merci beaucoup Barthélémy Togo. Je rappelle que vous êtes artiste peintre camerounais. Alors Romain et Chêne, on en a un petit peu parlé, mais l'art est aussi une façon de lutter, bien sûr, contre le décrochage scolaire et contre les mauvais résultats à l'école.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un peu plus général que ça. Ce qu'on essaie de véhiculer à la source, c'est que c'est pas la peine de stigmatiser en fait certains publics. En fait, par la pratique artistique et par l'expérimentation de la matière, la rencontre avec l'artiste, etc., on lisse un peu l'aspect hiérarchique dans un atelier. Les choses font qu'elles se passent de manière très spontanée et naturelle dans la réalisation d'une œuvre collective, et que finalement on se rend compte que le regard que l'on a au départ, le regard que peut avoir l'enseignant au départ sur certains élèves qui auraient décroché, est finalement un regard qui est assez biaisé. Et lors de la pratique artistique, ce regard change, parce que l'élève peut être meilleur que les autres, ou tout simplement apporter de l'aide aux autres à un moment où on pensait qu'il était complètement en retard. Donc ce que ça génère, c'est simplement de dire, finalement, des difficultés, on en a tous à un moment de notre vie, et si on a cet élan positif, cette envie de faire ensemble, on y arrive et on crée quelque chose de beau qui est l'œuvre artistique.
Et introduire plus d'art à l'école, c'est aussi gommer ou du moins estomper des inégalités d'accès à l'art, hein.
Oui, exactement. C'est aussi casser effectivement ce clivage qui veut que l'art n'est accessible qu'à une certaine couche sociale dans la société, et de montrer que non, ça ne nécessite pas de code particulier, mais simplement une écoute profonde de sa sensibilité et de son envie de découvrir le monde autrement.
Pascal Collin, je vous laisse le mot de la fin.
Ah, merci. Eh bien, oui, mais je vais rebondir sur ce que dit Romain, en fait. C'est-à-dire que considérer que l'histoire de l'art serait la seule voie, finalement, pour aborder l'art à l'école, c'est certifier un capital culturel préalable, comme le disait Bourdieu. Par contre, je voudrais terminer par des choses un peu moins positives, qui est qu'il faut...
Très rapidement.
Donc, il faut vraiment un pôle de ressources. Il faut que les enseignants, les artistes puissent se référer. L'architecture des ressources n'est pas faite en France pour l'instant. Ça, c'est très important.
Il faut repenser toute cette politique.
Oui, il faut, par exemple, une association comme l'ANRAT, l'Association nationale de recherche
et
d'action théâtrale, voit ses subventions diminuer. Tous ceux qui font des partenariats.
Et notamment donner les moyens. Merci beaucoup, Pascal Collin. Désolé de vous couper. Merci également, Emmanuel Etis. Merci, Romain Echen. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Baptiste Madigny en coulisses. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines. Lundi, 7 milliards de voisins, vous retrouverez Emmanuel Bastide pour vous plonger dans vos albums photos, vos albums de famille. À bientôt les voisins.
Merci beaucoup.